Bakary Samb, bonjour.
Bonjour.
Quel est le bilan des actions de l'armée malienne contre les groupes djihadistes pour l'année 2022 ?
Il est vrai qu'on nous a annoncé au rythme de communiqué une forme de montée en puissance de l'armée malienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais il s'est trouvé que présentement, cette fameuse montée en puissance, c'est contre les communautés. Et donc, on nous a parlé beaucoup d'une montée en puissance de l'armée, mais ceci ne s'est pas traduit par la reconquête d'espace, si l'on sait que tout le centre du Mali est aujourd'hui dominé par la Katiba Massina et que les éléments d'Al-Qaïda sont actuellement en compétition avec l'État islamique, notamment à Ménaka et dans la région de Gao.
Donc il n'y a pas eu de reconquête de l'espace malien, c'est ça que vous voulez dire ?
Je ne crois pas qu'il y ait reconquête de l'espace malien, d'autant plus que dans le nord, après le départ de Barkhane, actuellement il y a une rude compétition entre les différentes forces terroristes de la région, notamment les IS, mais aussi des éléments d'ACMI, donc la branche d'Al-Qaïda, mais aussi dans le centre où la Katiba Massina non seulement domine l'espace, mais s'étend sur d'autres pays comme le Burkina Faso à travers tout le Liptako Gourma. La montée en puissance dont on parle est malheureusement et paradoxalement une montée en puissance contre les communautés avec des exactions que l'on signale ça et là tous les jours.
Et vous parlez notamment de l'attaque du camp militaire de Tessit dans la zone des trois frontières en août 2022. C'est par l'État islamique au Sahara, c'est ça ?
Oui, l'attaque du camp militaire de Tessit le 7 août 2022 par l'État islamique au Sahara est une vidéo qui a été publiée en guise d'allégeance au nouveau calife Abu Hassan al-Hussein al-Qurashi le 1er décembre montre que la capacité de coordination des groupes est intacte et leur puissance de feu aussi se renforce de jour en jour. Et je crois que cela montre qu'il y a dans cette région un arsenal de guerre récupéré dans les garnisons attaquées et les renforts qui arrivent du Nigeria, du Niger et du Burkina Faso. Pour dire qu'aujourd'hui, les IS et les Génim sont encore davantage présents sur le terrain malien, contrairement à ce qu'on a pu annoncer comme reconquête de l'espace.
Et aujourd'hui, quel est le pourcentage du territoire malien qui est sous le contrôle de l'armée malienne ?
Certains avancent le chiffre de 40% et qui s'étonnaient même que lors de la célébration de la fameuse journée de la souveraineté retrouvée, que cette souveraineté-là ne puisse pas être une réalité sur l'ensemble du Mali, pendant que les groupes djihadistes s'approchent de plus en plus de Bamako et pendant que la situation sécuritaire sur le terrain est tout simplement catastrophique.
Et vous dites que la situation cette année risque d'être encore plus grave qu'en 2012, quand tout le nord du Mali était occupé par les djihadistes ?
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les mouvements signataires de l'accord d'Alger se retrouvent dans une posture plus confortable que celle des autorités politiques actuelles. Et que quel que soit le scénario aujourd'hui qui l'emporterait, en cas de renégociation de la mise en œuvre de l'accord, ils sont plus que jamais unis et parleront de plus en plus de la même voix. Et on le voit déjà dans les affirmations du général Alhaji Gamou, qui a été autrefois le bouclier de Bamako contre la rébellion et qui aujourd'hui a pris ses distances avec les autorités. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'avec le Génim et l'EIS, avec un agenda très clair de conquête qui appelle véritablement à la déstructuration du Mali, on est entré dans une zone de turbulence qui semble donner des indicateurs de désintégration de l'État comme on l'a connu au début de la crise en 2012.
Alors vous dites aussi quelque chose d'étonnant dans votre rapport. Vous pensez qu'il est possible de voir un rapprochement entre la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad, et le Génim d'Iyad Agrali ?
Il n'y a jamais eu d'étanchéité entre les groupes terroristes et certaines organisations politiques, notamment au Nord. Si l'on s'intéresse aux différents intérêts en termes économiques, tels que le contrôle des vastes zones de passage, qui à la fois profitent aux mouvements signataires, mais aussi aux groupes terroristes.
Et cette alliance éventuelle entre la CMA et le Génim pourrait se faire, dites-vous, contre l'autre mouvement djihadiste, l'EIS, l'État islamique au Sahara.
Je ne parle pas d'une alliance structurelle assumée entre les deux mouvements, mais de part et d'autre, d'une convergence d'intérêts stratégiques. Il ne faut pas oublier que Iyad Agrali, le fondateur d'Ansar Dine, était quand même connu dans la rébellion des années 90 et que cette étanchéité longtemps théorisée et instituée dans le cadre de la résolution 2058 qui distinguait les groupes armés des groupes terroristes et dans le cadre de l'intervention de Serval, je crois que cela relevait plus d'une illusion alors qu'on a les mêmes populations avec les mêmes vulnérabilités.
Et peut-on imaginer qu'Al-Rabah Saguintala, qui préside actuellement la CMA et que le général Gamou et même Moussa Agachara Toumane s'éloignent de Bamako et se rapprochent des djihadistes du JNIM d'Iyad Agrali contre le IS, hein, contre l'État islamique au Sahara.
Aujourd'hui, l'enjeu, c'est un repositionnement sur toute l'étendue du Nord. Et face à cette impasse politico-sécuritaire, les trois grands leaders qu'on a cités tout à l'heure décident quand même de capitaliser sur les acquis. Ça veut dire que chacun est en train de sécuriser ses positions pour éventuellement se préparer à toute éventualité, si j'ose dire, avec ce qui se dessine comme un véritable divorce entre Bamako et le nord du Mali, autant avec les mouvements signataires, mais aussi les groupes terroristes qui vont essayer aussi de se repositionner dans le cadre de cette vaste compétition pour le contrôle des territoires.
Vous dites aussi dans votre rapport qu'au Mali, l'option Wagner n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce à dire que malgré les démentis officiels des autorités de transition de Bamako, eh bien, il y a bien, selon vous, sur le territoire malien, des combattants de Wagner ?
Les populations et les communautés que nous interrogeons à travers d'études utilisent le terme Wagner. Cela veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre des opérations de ratissage menées notamment dans le centre contre des communautés, notamment Peul, il faut le dire, il y a bel et bien des témoignages de populations qui parlent de Wagner. En tant que chercheur, on ne peut qu'utiliser les termes qui sont mis en avant par les communautés elles-mêmes. Et cela veut dire que la fameuse montée en puissance, finalement, se fait contre les communautés et qu'aujourd'hui, on est en train de semer les germes de conflits intercommunautaires interminables, notamment dans le centre du Mali, mais aussi dans tout le Gourma.
Et pensez-vous qu'on verra un retour des civils au pouvoir dans les deux ans qui viennent ?
Les partis politiques au Mali, dans le cadre de coalitions, commencent à douter de l'effectivité de l'application de l'agenda qui a été promis à la communauté internationale, à la CEDEAO, etc. Aujourd'hui, il y a de gros doutes sur le processus électoral et qui sont assez flagrants dans la manière d'organiser ces consultations et dans la manière dont l'administration territoriale est en train d'organiser les choses. Actuellement, ce sont les partis politiques maliens eux-mêmes et des organisations de la société civile qui se plaignent des gros retards qu'on note sur le processus. Donc, il serait trop ambitieux, à mon avis, de penser que le calendrier électoral sera tenu à Bamako.
Pourquoi dites-vous que le front sociopolitique est brouillé ?
Le front sociopolitique est brouillé d'abord par le fait de l'immixtion des religieux. On a vu Ouka Ouka, toutes ces déclarations sur l'application de la charia, le refus de la mixité dans les écoles, mais aussi une reconfiguration du champ politico-religieux avec les positions prises par Haïdara et récemment par l'imam Diko, dont le convoi a été gazé à son retour de la Mecque. On voit aujourd'hui que les autorités en place sont en train de se mettre à dos aussi bien la classe politique qu'elle croyait avoir complètement annihilée, mais aussi la montée en puissance des religieux qui se repositionnent, mais différemment des manifestations contre Ibeka. Là, ce sont les religieux qui se mobilisent aussi bien dans le cadre de la contestation d'une nouvelle constitution. Diko dit bien que le pouvoir actuel n'est pas assez légitime pour appeler un référendum sur une constitution, mais aussi on voit que Ousmane Madani Haïdara, même le président du Haut Conseil islamique, prend ses distances avec tous ces signaux de climat tendu qui ne jouent pas en faveur d'un apaisement du climat sociopolitique, on voit que le pouvoir a bien du mal à ouvrir et à gagner tous les fronts auxquels on assiste aujourd'hui.
Et dans votre rapport, vous soulignez le fait que les autorités de transition dialoguent avec un cadi de Tombouctou qui se fait le relais du JNIM d'Iyad Agrali pour imposer la charia dans le nord du Mali. Pensez-vous que c'est habile de la part des autorités de Bamako ?
Je crois que les autorités de Bamako, conformément à la volonté de la population elle-même, que le Mali puisse parler à tous ses enfants, y compris ses enfants qu'on considère comme étant perdus. On est obligé d'instaurer le dialogue tel qu'on le fait aujourd'hui au Niger. Mais de là à renforcer ce cadi, à lui donner des pouvoirs démesurés qui lui permettent de remettre en cause les fondements de la République, il y a quand même un rubicon à ne pas franchir.
Bakary Sambe, je vous remercie.